Forex et matières premières, mes alertes stratégiques et mes signaux de marché du moment. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Alors que, vous savez, depuis le 1er octobre, il n'y a pas eu de statistiques américaines qui comptent vraiment. Elles arrivent. Alors, elles vont arriver, certaines partiellement. Mais elles vont arriver. L'idée, c'est qu'il y ait le flow maximal de data avant la Fed du 10 décembre. Ok, très bien. Donc, dans cette période très spécifique, le marché n'a pas eu les chiffres de l'emploi, les chiffres de l'inflation. Beaucoup d'actifs majeurs sur le marché des changes et le marché des matières premières sont donc en stand-by, statu quo, dans l'attente d'avoir une visibilité macroéconomique qui donne derrière une trajectoire de politique monétaire. J'ai parcouru tout le marché des matières premières, tout le marché des changes, alors les actifs majeurs du marché des matières premières et du marché des changes, et j'ai voulu, en attendant la mise à jour de ces statistiques américaines, car elles arrivent, on aura cette semaine le NFP du mois de septembre et tout va arriver. En fait, si vous voulez, le BEA, le Bureau des études économiques, donc ça dépend du département du commerce, et le ministère du Travail des États-Unis vont bientôt proposer un agenda de publication. Mais j'ai trouvé des choses, des signaux stratégiques, entre guillemets, des rapports de force au sein entre certaines matières premières, entre certaines paires de devises majeures du marché d'échange, qui donnent un message de moyen long terme, en particulier des ratios, et en particulier le ratio entre le cours du cuivre et le cours de l'or, qui représente le cycle macroéconomique. Et vous allez voir que, alors que là, le marché s'enfonce dans du pessimisme, oui, regardez les indicateurs de sentiment. Il est vrai que j'en parle beaucoup dans le top gain, que le marché action est suracheté, que nous sommes en surchauffe de valorisation, essentiellement d'ailleurs du côté de la tech. Là encore, je vous renvoie à ma dernière top gain où j'ai vraiment comparé la situation actuelle avec 2007-2008, avec 2001. On voit que finalement, il y a le verre à moitié vide, le verre à moitié plein aussi. Donc, il ne faut pas s'enfermer dans une posture cataclysmique. Ça y est, c'est certain, un grand bear market de type 2009 arrive ou encore de type 2022, qui fut un petit bear market comparé aux deux grands de la première décennie de ce siècle. Mais il y a, notamment sur le marché d'échange, un ratio très important sur le marché des matières premières qui permet de visualiser le cycle macroéconomique et qui donne plutôt un message d'optimisme. En tout cas, pas de point de départ d'un effondrement, ce qui n'empêche pas, bien sûr, des corrections de 10-15%, mais qui irait plutôt à contre-tendance, qui s'inscrirait complètement à contrario d'une vision d'une chute de 50% du marché action, par exemple, l'année prochaine. Vous savez, il ne faut pas avoir cette vision manichéenne, bull market, bear market. N'oubliez pas les phases latérales, les phases de trading range, au sein duquel on peut faire du stock picking. D'ailleurs, prenez l'historique du S&P 500, il y a eu des grandes phases de range. Je me rappelle par exemple cette période de 2015-2018, à l'intérieur duquel vous avez des secteurs qui font des niveaux plus hauts, d'autres des niveaux plus bas, d'autres qui sont flats. Ce que je veux dire par là, c'est que les enseignements actuels du marché des matières premières ne sont pas en faveur d'un effondrement du marché action, d'un grand bear market. Ça peut justifier un trading range par exemple. Donc, trêve de blabla, voilà ce dont nous allons parler dans cette édition du Fast and Forex qui va être synthétique. Première partie, le ratio copper-gold, cuivre-gold. Il a déjà un positionnement technique là très intéressant, mais surtout, il est considéré comme le baromètre de l'attrait pour le risque. Dans un marché action qui serait à deux doigts de s'effondrer de 50%, ce ratio devrait donner un signal d'alerte baissière. Vous allez voir qu'il est en train plutôt de bottomiser. Deuxième partie, je vais vous parler du taux de change euro-GBP, sur lequel je vous ai proposé déjà depuis plusieurs mois une stratégie bullish. Le taux de change reste bullish. En fait, ce que montre actuellement le marché des options Forex, c'est que les institutionnels se couvrent contre le risque de dette britannique. programme de dépenses qui est jugé injustifié, la dette britannique qui est sous pression, les taux britanniques qui sont sous pression. C'est toujours compliqué de se positionner face au dollar américain, qui lui reste la paire majeure du Forex et qui imprime sa tendance de fond à toutes les paires majeures. Donc je vais vous reparler du change euro-GBP. Troisième partie, attention. Oui, mes alertes stratégiques et mes silos de marché. Attention. Attention si vous tradez le taux de change USD/JPY, qui, oui, est en tendance haussière depuis plusieurs semaines, qui, oui, s'approche de son record historique. Attention. Oui, la nouvelle première ministre japonaise, effectivement, elle n'y est pas défavorable, finalement. Elle réclame plutôt de l'assouplissement monétaire. Très bien. Sauf que, en face de ça, vous avez une banque centrale qui ne tolère plus la chute du yen. Ça renforce, ça crée de l'inflation importée, ça génère de la fuite des capitaux. Le Japon a un problème de dette publique, une monnaie qui s'effondre renforce davantage ce problème de dette publique, la relation commerciale avec les États-Unis. Un taux USD/JPY qui s'envole crée des tensions politiques. D'ailleurs, Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, ne se cache pas, ne s'en cache pas, et exprime toujours cette volonté aux autorités japonaises de ne pas trop laisser baisser la devise. Dans la relation commerciale Japon-États-Unis, c'est important. Bon, attention, à tout moment, la Banque centrale du Japon, les autorités japonaises peuvent intervenir sur le marché des changes, acheter du yen. Nous arrivons dans une zone où historiquement se concentrent les achats de la BOJ. Donc je vais vous remontrer ça sur l'USD/JPY. Quatrième partie, on parle bien sûr du dollar américain qui est toujours sous résistance majeure. Vous connaissez le topo, j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur ce sujet. Il faut que j'en parle quand même toutes les semaines. Il est toujours en range, il n'a pas validé de renversement haussier. Les statistiques américaines arrivent. Alors au stade actuel, la probabilité que la Fed baisse les taux en décembre est minoritaire. Ça joue 45-55, ça n'arrête pas de se bouger entre pour et contre. Mais l'arrivée avec retard des stats américaines, et en particulier les statistiques de l'emploi, parce que l'inflation, on sait qu'elle est flat. On sait qu'elle est flat entre 2,5 et 3. C'est même plus un sujet. C'est au-dessus de la cible de la Fed, mais c'est pas en vague inflationniste, c'est pas non plus à 2. Donc, le sujet, c'est l'emploi. Et sur le dollar, ce sera ça la clé. Cinquième partie, retour du Cot Report. Et oui, vous l'avez peut-être oublié, mais le rapport Commitment of Traders publié par la CFTC, depuis le shutdown, il n'y en a pas. Le dernier Cot Report remonte au 23 septembre. Depuis, il n'y a rien. Là, ça y est, ça va revenir. Je vais retrouver mes datas de positionnement institutionnel. Ça va être majeur, notamment, pour savoir comment les institutionnels sont positionnés sur le dollar. Ça arrive. Et dernière partie, le pétrole se maintient sous résistance majeure. Alors l'OPEP d'ailleurs devrait mettre en pause sa réaugmentation de production à partir de janvier, mais regardez le pétrole, il n'y a pas de vague d'inflation. Voilà chers amis, bienvenue à l'édition. C'est parti, marché d'échange et matières premières, mes alertes stratégiques du moment, mes signaux divers et variés. Que la session s'ouvre, je la déclare ouverte, le plan je vous l'ai donné dans l'introduction, ne perds pas davantage de temps parce que j'ai déjà été trop long, tout s'affiche, allez un par un, hop ça tombe comme une cascade. Et dès que c'est tombé, on passe à la première partie. Oui chers amis, c'est un ratio majeur, le ratio cuivre-gold. Ça, ce dont je vais vous parler, ça appartient en matière première, c'est considéré comme le baromètre du risque, mais sur le marché des matières premières, vous avez rarement eu, voire quasiment jamais, un effondrement du marché action tant que ce machin est bullish. Et vous allez voir que, non seulement on est loin d'un top, en plus, il y a plutôt des signaux de renversement aussi. Ça n'écarte pas la possibilité que le marché action se mette en range, qu'on ait des corrections intermédiaires de 10-15%, mais le message du ratio cuivre-gold est complètement opposé, j'insiste, le message technique du ratio cuivre-gold est complètement opposé à une chute de 50% du marché action et opposé à un effondrement de type 2001, 2002, 2008, 2009. Opposé. Et peut-être même un scénario de 2022. Le S&P 500 peut quand même revenir à 6200 points, son ancien record. Ça fait 10-15% de baisse. C'est pas la fin du monde. Mais il n'y aura pas d'avantage. Enfin, d'après. Donc, Alors, rapidement, de quoi est-ce qu'on parle? Le ratio, je vous le montre, et puis non, c'est le ratio, je vous le montre. Alors, au passage, j'ai mis ici pour montrer à quel point c'est un ratio d'attrait pour le risque. À chaque fois, ici, vous avez les sommets cycliques du passé de Bitcoin. Vous voyez qu'à chaque fois que le ratio cuivre-gold faisait un sommet et se renversait à la baisse, c'était le sommet du cycle Bitcoin. Donc, qu'est-ce que c'est le principe d'un ratio? C'est un numérateur sur un dénominateur, cuivre sur gold. Comment ça fonctionne? Lorsque vous construisez un ratio, je vous laisse lire ce que j'ai mis ici, mais je le mets en voix. Lorsque vous construisez un ratio, la courbe d'un ratio, donc une fraction, donc là, cuivre sur gold, on peut prendre cuivre sur argent, argent sur gold, S&P 500 sur CAC 40, peu importe. Vous avez A sur B. Le numérateur, c'est A, le dénominateur, c'est B. On peut faire l'analyse technique de cette courbe. Si la courbe est haussière, c'est que A surperforme B. Si la courbe est baissière, c'est que A sous-performe B. Donc que B surperforme A. Vous me suivez? Facile. Et donc ce que l'on sait, c'est que le ratio cuivre sur gold est un ratio d'attrait pour le risque. Pourquoi? Parce que le cuivre, c'est le métal industriel par excellence. Une bonne santé du prix du cuivre, une tendance haussière du prix du cuivre. C'est notamment les économies asiatiques qui avancent, c'est la Chine pour beaucoup. Bref, c'est le métal industriel. Où se trouve maintenant l'industrie mondiale? La Chine est de loin la première puissance industrielle mondiale. Je ne dis pas économique, ils sont ex aequo avec les États-Unis. Mais d'un point de vue industriel, la Chine, c'est le double des États-Unis maintenant, sachez-le. La Chine, c'est grosso modo 30% de la production industrielle mondiale, les États-Unis sont à 15%. Je ne dis pas industrie, je ne parle pas du PIB. Au contraire, l'or, considéré comme... Je vous apprends quelque chose en disant que l'or a un aspect refuge. Bon. Historiquement, le ratio cuivre-gold représente donc le cycle économique. Les anglo-saxons parlent de business cycle. Lorsque cette courbe est haussière, nous sommes en phase d'expansion macroéconomique. Lorsque cette courbe est baissière, nous sommes en phase soit flat, de faible croissance, voire même de contraction. D'ailleurs, c'est vrai que là, on a eu un bull market sur le marché action. C'est essentiellement à cause des stars de la tech, mais vous savez que la profondeur du marché action est globalement plat ou à l'équilibre. Parce que nous sommes dans une situation de faible croissance. La tech, c'est différent. Et si vous prenez la profondeur du marché action, je vous ai déjà montré la différence entre le S&P 500 normal et les prépondérés, ça n'a rien à voir. Donc, si nous étions à l'aube d'un effondrement du marché action, si nous étions tout proches de moins 50%. Ce ratio devrait être tout en haut et devrait être en train de donner de puissants signaux de renversement baissier. Or, où est-il? Il est tout en bas et il est en train de proposer les premières divergences haussières. En clair, je ne parle pas de la tech encore une fois. En clair. En clair. Lorsque vous avez donc un ratio cuivre-gold qui est bullish, en général, les actifs les plus recherchés seront les actifs risqués en bourse, et au contraire, une courbe qui commence à se renverser à la baisse montre que l'aspect refuge commence à surperformer l'attrait pour le risque, et là, attention, c'est que l'on s'expose potentiellement effectivement à un grand bear market. Retenez une chose, le cuivre-gold ratio est sur le marché des matières premières le plus suivi de tous les indicateurs d'attrait pour le risque. Pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant? Parce qu'il est là. Parce que vous pouvez le construire sur TradingView, vous faites cuivre sur gold, XCUSD sur XAUSD. Comment on construit ça? C'est facile, vous savez utiliser TradingView. Vous avez ici les petites formules mathématiques de base, là. Les petites opérations mathématiques de base. Vous faites cuivre divisé par gold. Vous savez utiliser TradingView. De toute façon, c'est super simple. Mais plein de plateformes le proposent. Eh bien, regardez. Pour vous montrer à quel point que c'est un indicateur d'attrait pour le risque, à chaque fois qu'il se retournait à la baisse, c'était le sommet de Bitcoin. Mais là, on est tout en bas. Je fais pas d'analyse Bitcoin, là. Hein. Je m'en fous du Bitcoin. Je parle du ratio cuivre-gold, de ce qu'il représente pour le business cycle. Eh bien là, regardez. On est en phase de bottomisation. On retrouve des divergences. Donc, d'après ce ratio, je dis pas qu'on va avoir une phase d'expansion économique majeure. Alors ça pourrait être la baisse des taux, la fin du QT, etc. Mais d'après ce ratio, 2026 ne devrait pas voir l'effondrement du marché action. Peut-être un trailing range, par exemple. Donc ça, c'est plutôt un indicateur qui permet de garder un peu confiance. Je continue sans transition, parce que je suis déjà beaucoup plus long que ce que je pensais. Je vous fais un suivi de l'euro-GBP. L'euro-GBP, pourquoi? Parce que si vous reprenez l'historique de mes Fast and Forex, si vous reprenez l'historique de mes Fast and Forex, eh bien, vous vous souvenez que je vous ai proposé à plusieurs reprises donc une stratégie bullish sur l'euro-GBP. D'ailleurs, j'ai laissé la flèche de l'époque, donc on devait être par ici, parce que c'est une structure de support majeur. C'était une belle configuration technique. Et l'idée était que, si vous voulez, ce qu'on observe, c'est quoi? Ce que nous savons, c'est que la haute finance, c'est le message qui est donné à travers les options FX. La haute finance se couvre de plus en plus contre le risque de dette britannique. Bon, je ne dis pas que la situation budgétaire et d'endettement public de la Grande-Bretagne est pire que celle de la France, hein. Mais voilà, il n'y a pas la BCE derrière, et c'est un pays, ils ont leur monnaie, ils ont leur banque centrale, ils sont un peu tout seuls. Bon. D'autre part, le gouvernement a un nouveau programme d'expansion budgétaire, en tout cas, alors oui, d'accord, ok, augmenter les impôts, il y a une modification de l'ordonnancement des dépenses, bref, le marché doute de la nouvelle politique budgétaire mise en place au Royaume-Uni. Et c'est ce que montre le marché des options. Alors, l'idée ici, c'est pas d'aller trader les options FX, mais c'est de rester simple. Je pense que c'est risqué de jouer le GBP face au dollar US, parce que vous savez que le dollar US est à la croisée des chemins techniques. Le dollar US imprimera sa tendance de fond face à toutes les devises, quelle que soit la situation en face. Là, je vous montre la situation des taux britanniques, les taux longs britanniques, donc c'est une situation qui se tend sur le marché des taux. Bref, je continue de penser que pour jouer, entre guillemets, ces doutes entre la trajectoire budgétaire et d'endettement public britannique, vous avez mis ici l'évolution de la dette publique britannique en valeur absolue, cela peut être de continuer d'accompagner la tendance bullish de l'euro GBP en direction de cette zone, la D0,90-0,92. Je continue sur mes alertes et mes signaux du moment, et là je veux insister, d'ailleurs j'aurais dû mettre ça en deuxième partie. Attention, vous avez raison d'avoir acheté l'USD/JPY, je dis pas le contraire. Oh oui, vous avez amplement raison de vous être positionné bull sur le taux USD/JPY, puisque, ma foi, c'est une tendance haussière de fond, il n'y a aucun sujet. Depuis maintenant 12 ans quand même, belle tendance. Et il est vrai qu'à court terme, donc le dollar/JPY a rebondi depuis le printemps dernier sur un support, que le dollar/JPY donc serait en train de sortir par le haut d'une pattern. C'est vrai que les signaux donnés aussi par l'Ishimoku Weekly sont favorables. Il y a des choses. Il y a des éléments techniques, effectivement, de poursuite de la tendance haussière, ici, sur le taux USD/JPY. Alors, me direz-vous, pourquoi alerter sur quoi que ce soit? J'alerte parce que ni les États-Unis, ni le Japon ne tolèrent un USD/JPY trop élevé. Pour le Japon, un yen faible, c'est compliqué. Je rappelle que le pays a une dette énorme et qu'il faut la placer, cette dette. Une monnaie qui s'effondre, ça ne donne pas vraiment envie de tenir la dette japonaise. Bon. C'est un pays qui importe beaucoup de matières premières et qui cherche là. Je rappelle, la politique monétaire devient de plus en plus restrictive. Les taux sont bas, mais ils montent pour contenir l'inflation. La relation commerciale avec les États-Unis. L'attrait pour les capitaux étrangers. Tout ça fait que il ne faut pas que le yen s'effondre davantage. Alors c'est une belle tendance haussière. Il y a effectivement un écart de taux d'intérêt qui est largement favorable au dollar vis-à-vis du yen. Même si les taux japonais remontent, l'écart est encore largement favorable. Les spreads de taux sont favorables au dollar US. Mais vous avez en face de ça une banque centrale du Japon qui déjà remonte ses taux, pourrait les remonter davantage encore en fin d'année et dans le courant de l'année prochaine. Alors même si la nouvelle première ministre, Sanae Takishi, elle y est plutôt opposée, mais ça peut être aussi une posture politique, mais dans tous les cas, elle ne veut pas casser la croissance. Mais à un moment ou à un autre, le gouvernement japonais et la banque centrale, et notamment la banque centrale, ont conscience de l'importance d'une devise qui ne s'effondre pas du niveau à partir duquel elle est maintenant. Et je vais vous montrer une chose. La BOJ, elle intervient, elle ne va pas vous prévenir. Elle le dit par contre ouvertement qu'elle peut intervenir à tout moment. Nous sommes là à, quand je fais la vidéo, 155 yens. Voilà ce que vous avez sous les yeux. Vous avez sous les yeux les zones d'intervention historique de la Banque Centrale du Japon. Les zones d'intervention historique. Voilà où nous sommes actuellement. Voilà où se concentrent historiquement les achats de yens par la Banque Centrale du Japon. On comprend bien que si la Banque Centrale du Japon achète du yen, c'est baissier pour l'USD yen. Acheter du yen, c'est shorter l'USD yen, vous me suivez. Donc oui, vous avez une belle tendance, oui, il y a des dépassements de résistance, mais attention, nous arrivons sur le mur en béton armé. Cette zone d'intervention ici, énorme, autour des 155-160 yens, il y a des communications très récentes de la Banque Centrale du Japon en faveur d'une nouvelle intervention. Elle prévient en plus. Donc, vous voyez cette zone ici, ces zones ici, ces gros retournements baissiers là, que vous observez là. C'était systématiquement dans les 24 heures à 48 heures qui ont suivi l'intervention de la Banque Centrale du Japon. Je ne suis donc pas en train de vous dire shorter l'USD Yen, mais je suis en train de vous dire peut-être qu'à l'arrivée de ces niveaux, il va falloir commencer à prendre des profits. Et dès que vous allez observer ce type de séance, une semaine comme ça de début de renversement, et que la Banque Centrale a communiqué sur le fait que oui, elle a acheté du yen, parce qu'elle communique tout de suite, hein, là, prenez vos profits, et il y a une bonne probabilité de revenir en bas. En tout cas, attention, pour l'instant, il n'y a aucun signal quand je fais la vidéo, mais en fin de semaine dernière, la BOJ a communiqué. Donc, je voulais absolument attirer votre attention sur ce sujet. Sans transition, alors le dollar américain reste à la croisée des chemins techniques. Je vous renvoie vers le long Fast and Forex que je vous ai proposé la semaine dernière. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de chiffres depuis début octobre. Les chiffres arrivent. Alors, il est vrai qu'au stade actuel, désormais, la probabilité que la Fed baisse ses taux en décembre, maintenant, elle est minoritaire, mais ça peut aller très vite. L'inflation s'en fout complètement, elle bouge plus, elle est flat. La seule chose qui compte, c'est les chiffres de l'emploi. Je vous ai fait la vidéo la semaine dernière, je la refais pas, reprenez-la, elle était archi complète. Mais nous n'avons pas regardé, hein, regardez, j'avais insisté sur le niveau pivot, regardez. Oui, il y a la mise à plat, il y a des divergences, il y a plein de choses. Il n'y a pas encore ici le signal de renversement haussier. Il n'y a pas encore le signal de renversement haussier. Donc on se maintient en dessous. Donc tant qu'on est en dessous, le marché peut rester orange, même faire un grand nouveau plat. Alors, ça peut passer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous allez avoir cette semaine la publication du rapport NFP en retard du mois de septembre. C'est lui qui va forger en grande partie ce que fera la Fed le 10 décembre. Il y aura d'ici là aussi d'autres chiffres. Mais dites-vous bien une chose, c'est que pour le moment, le dollar n'a donc toujours pas validé de renversement haussier. Il est rangy. Et d'ailleurs, vous aviez dans le Fast and Forex de la semaine dernière, je ne sais pas si vous l'avez regardé, j'étais pas très nombreux à l'avoir regardé, j'étais déçu. Je vous remonte ce tableau où j'ai fait deux classements différents. Puisque le dollar finira par faire son choix majeur en termes de tendance de fond, si jamais ce choix est bullish, je vous ai fait le classement des stratégies parmi les paires majeures. Donc si jamais le dollar fait le choix bullish, la meilleure stratégie, ce sera le short euro dollar et le long USD yen. Si le dollar fait le choix bullish. Alors, le long USD yen, pas au niveau actuel, hein, parce que je vous ai montré le mur en béton armé des interventions de la BOJ. Par contre, si le dollar fait le choix baissier, je vous ai fait ici donc un classement des stratégies parmi les paires majeures. Ce tableau, je vous le retrouvais dans l'édition du Fast and Forex de la semaine dernière. L'euro-dollar, retour du rapport Commitment of Traders. Alors oui, ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé, vous vous en souvenez. J'avais pris pour habitude chaque semaine de vous montrer les données à jour du rapport Commitment of Traders, qui sont donc le positionnement institutionnel des traders de hedge fund et d'asset management, les contrats à terme et les contrats d'options, des matières premières. Et c'est vrai que depuis début octobre, je ne vous ai rien montré, parce que je ne vois pas. Les dernières mises à jour remontent, regardez, les dernières mises à jour remontent au 23 septembre. Il n'y a eu aucun chiffre depuis le 23 septembre à cause du shutdown. Eh bien, là, il y a eu, il y a eu une communication donc, du CME, de la CFTC. Ils vont, semaine après semaine, les publier, mais avec retard. Donc, il va y avoir encore un décalage, mais les données de positionnement institutionnel vont revenir. Et ça va permettre notamment de savoir comment les institutionnels se positionnent sur le dollar, alors que celui-ci reste encore à la croisée des chemins techniques. Et enfin, un point rapide sur le pétrole, là aussi, c'est pour montrer que l'inflation n'est plus un sujet. Oui, elle est au-dessus de la cible de la Fed, mais tous les indicateurs temps réel montrent qu'elle est flat. Elle est flat à 2,5-3. Voilà. On n'est pas à 4, on n'est pas à 5, on n'ira pas. On n'est pas à 2 non plus, on n'ira pas non plus. Donc, tant que les tarifs douaniers soient, hein, soient intégrés, et mais il n'y a pas d'inflation. Il n'y en a plus, en fait. Il n'y a plus de nouvelle inflation, d'ailleurs. Je vous montre le pétrole. Pétrole, ouais. Le pétrole, tant qu'il est sous les 65 dollars, le sommet ici, avant la chute de la crise sanitaire, ce sommet-là. Tant qu'il est là-dessous, il est bearish. Et on est en dessous, on est bearish. Alors au passage, donc, c'est vrai que l'OPEP va. Vous savez que l'OPEP a commencé à augmenter sa production. Et l'OPEP envisageait de continuer de l'augmenter au premier trimestre 2026. Ils vont peut-être se mettre en pause parce que, en face, la demande n'est pas au rendez-vous. Donc, tant que le prix du pétrole se maintient sous ses 65 dollars, il n'y a pas de vague inflationniste. L'inflation n'est plus un sujet. Elle l'est parce qu'elle est au-dessus de la cible de la Fed, mais elle ne l'est pas dans le sens où il y a un risque de vague inflationniste de type Covid. Ça, c'est clairement du passé. Voilà, chers amis, ainsi s'achève cette nouvelle édition du Fast and Forex. Retenez notamment, surtout, le ratio copper-gold et méfiez-vous des interventions de la BOJ. Et quant au dollar, les chiffres arrivent. Je pense que dès le top gain de lundi prochain, j'en aurai beaucoup que je pourrais intégrer dans la réflexion. Allez, merci à toutes et à tous, passez une excellente semaine.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.